Au-delà du cosmos.
Au-delà du cosmos.
Une émission sur l'astronomie. Que même les Martiens écoutent.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Vers l'infini et au-delà!
Au-delà du cosmos. Une émission que l'on peut écouter de Platune à Lupton. Et bien sûr, sur Timbre FM.
Start 2 1 boost ignition.
Au-delà du cosmos.
Au-delà du cosmos.
Bonjour chers auditeurs, je vais vous raconter l'histoire sur le Soleil, un petit peu cette magnifique boule de gaz que l'on peut voir de nos yeux mais qu'il ne faut jamais regarder en face à cause de ces éclats très puissants et qui peuvent nous brûler les yeux en un rien de temps. Donc je vais commencer par vous dire quel âge a notre Soleil dans notre système solaire et quelle place nous apporte-t-il, et nous ici, sur Terre? Donc, le Soleil est une étoile de 1292 000 km de diamètre et 150 millions de kilomètres de la Terre, qui est au centre du système solaire et qui nous illumine depuis 4 milliards et demi d'années. Il est à la moitié de sa vie. Maintenant, regardons d'un peu plus près l'intérieur du Soleil. Il est composé d'un noyau qui occupe 15% du Soleil à une température de 14 millions de degrés, où l'hydrogène est à hauteur de 73%, 46% est transformé en hélium, à hauteur de 24%, 84%, par réaction nucléaire. Durant cette combustion, des photons et neutrinos sont créés. Les pressions y sont 340 milliards de fois la pression terrestre au niveau de la mer. Plus haut, se trouve une zone radiative d'une épaisseur de 244 000 km, très dense, qui représente 98% de la masse du Soleil. Un photon mettra jusqu'à 1 million d'années à le traverser. La température est liée de 500 000 à 10 millions de degrés. Ensuite vient une zone appelée convection, d'une épaisseur de 199 000 km, qui évacue la chaleur en mouvement tourbillonnaire, créant une surface, une supergranulation qui divise ces photosphères en cellules d'environ 30 000 km de diamètre. Maintenant, on va diviser les différentes parties du Soleil par lui-même. À savoir que la surface visible du Soleil a environ 500 km d'épaisseur pour une température de 6000 degrés. C'est là que l'on voit les taches solaires qui sont visibles que par la différence de température. Une tache solaire peut atteindre la taille de 12 fois la Terre. Ensuite, nous avons la chromosphère, qui se trouve à 10 000 km au-dessus de la photosphère. Sa température peut atteindre entre 10 000 et 20 000 degrés. Dans des couches les plus élevées de la température, peut atteindre 1 million de degrés. Ensuite, nous avons la couronne solaire, qui s'étend très loin, voire même au-delà de l'orbite terrestre. Sa température varie entre 1 et 2 millions de degrés. L'on ne peut la voir que lors d'une éclipse solaire où l'on peut y voir des arches, des jets pouvant aller jusqu'à 10 rayons solaires éjectés à près de 1000 km par seconde. Ensuite se trouve le champ magnétique. Se forme par le déplacement de particules chargées telles les électrons et les ions. Le champ magnétique du Soleil enveloppe le système solaire entier dans une bulle appelée l'héliosphère. Il se prolonge de 50 à 100 unités au-delà de l'orbite de Pluton. Ensuite, nous avons les trous coronals. Alors, les trous coronals, c'est une ouverture sombre dans l'atmosphère du Soleil qui laisse échapper des particules de plasma et d'ondes magnétiques mêlées au vent solaire, pouvant atteindre des vitesses entre 300 et 1200 km par seconde. C'est ceci, entre autres, qui provoque nos aurores boréales. Que nous apporte le Soleil sur Terre ? Premièrement, la vie, le climat et les phénomènes météorologiques. Alors, pour la vie, le Soleil nous apporte la chaleur, la lumière pour notre vie de tous les jours. Les phénomènes météorologiques y contribuent à toutes les colères que l'on a sur Terre et aussi aux marées avec la Lune. Le climat, nous sommes situés dans une zone idéale pour vivre ni trop chaud ni trop froid et régule les températures. Les radiotélescopes. Alors, ce sont des appareils qui permettent de capter, au moyen d'antennes, soit filaires ou paraboles, les ondes électromagnétiques du Soleil qui sont transformées en fréquences par les receveurs et transmis aux ordinateurs qui reçoivent le graphique. C'est comme cela qu'on peut voir les éruptions solaires par moyen, disons, informatique. Sinon, on ne pourrait pas voir autre qu'avec certaines observatoires très puissants qui, eux, peuvent les voir de visu. Nous, avec nos appareils, on les voit sur les graphiques. Les éruptions solaires. Une éruption solaire peut réduire à néant tout notre système électrique et informatique, car les ondes électromagnétiques du Soleil se concentrent sur tout ce qui est électrique et magnétique et informatique. Cela peut arriver à tout moment, sans qu'on ait le temps de bouger. La non-activité du Soleil en ce moment facilite le passage des rayons cosmiques. Un satellite du nom de Parker Solar Probe a été mis en orbite à 6 millions 4 km du Soleil et commence à nous envoyer certains éléments qui pourraient anticiper ou peut-être tout au moins prévenir assez tôt des catastrophes sur Terre. Car actuellement, on n'a aucun moyen de prévenir rapidement une très forte éruption solaire. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on pourrait continuer un petit peu par certains biais de questions. Nous avons un invité qui vient nous rendre visite ce soir, c'est Tom, et Bonjour. Qui va nous poser certaines questions sur le soleil, qui apparemment a l'air de l'intéresser énormément. Donc Tom, je t'écoute.
Bah oui, parce que moi je vois le soleil tous les jours, mais je sais pas vraiment ce que c'est en fait, à part que c'est énormément chaud et que c'est un astre. Mais j'avais une question que je me posais depuis un certain temps. Comment il s'est formé le soleil? Parce que je sais pas, une planète, donc comment il a pu se former?
Alors, le soleil s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années, par différentes amalgames, on pourra dire, de matériaux. Actuellement, si on devait comparer le Soleil, je le comparerais à une centrale nucléaire, parce qu'à l'intérieur, il y a des échanges de température très importantes, qui fait que ça nous donne cette température qu'on a ici sur Terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, 150 millions de kilomètres, ça chauffe dans le désert à 50-60 degrés. Donc on imagine les températures extrêmes qu'il y a à l'intérieur du Soleil.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a du chaud et du froid qui se côtoient, ou c'est tout,
non.
C'est tout chaud?
C'est que de la chaleur, c'est de la fusion nucléaire en fin de compte.
D'accord, mais en fait, comment dire, c'est 4000 degrés le Soleil, non, je sais plus.
Alors attends, là je vais reprendre des... sur l'intérieur du Soleil.
Ouais.
On est à 14 millions de degrés.
C'est pas mal.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand les rayons à 4 millions de degrés vont vers la Terre, en fait, ça se refroidit au fur et à mesure à chaque fois.
Ça se refroidit au fur et à mesure, oui. Mais malgré la distance de 150 millions de kilomètres, on arrive encore à avoir des températures qui sont dans le désert entre 50 et 60 degrés.
Non, donc c'est quand même une chance d'être plutôt loin, en fait.
Alors, on est placé dans la bonne zone. Plus on se rapproche du Soleil, plus il fait trop chaud. Donc les deux planètes qui sont devant nous, Mercure et Vénus, sont trop chauds. Et après, nous, on prend donc Mars, Saturne, Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. C'est trop froid. Et ainsi de suite. Donc, puis après, on est dans le vide interstellaire. Là, c'est encore beaucoup plus froid.
Mais Si y a une expédition spatiale qui devrait se mettre en route demain, par exemple,
ouais.
À quelle distance du Soleil il pourrait aller sans risquer d'une défaillance technique ou juste de brûler?
Le problème, c'est même pas une question de distance. Si on prend la Lune est à 325 000 km, je crois. En deux, trois jours, on y est. Et les températures là-haut sont très froides. Si tu n'as pas un scaphandre spécifique et une combinaison, tu peux pas vivre. Donc, sur Mars, le problème est exactement le même. Encore pire, parce que c'est encore plus froid. Donc, voilà. Ce n'est pas une question de... partout où on ira, on sera obligé d'avoir des tenues spécifiques pour pouvoir vivre à l'extérieur.
Mais le soleil, il n'affecte pas ses tenues, à part la chaleur du soleil. Si on se balade à côté, ça affecte forcément les systèmes du vaisseau, le vaisseau, les matières et donc les combinaisons.
Oui, mais eux sont prévus pour.
Donc ça peut aller jusqu'à combien
Écoute, si on prend des températures, je crois que sur Mars, en pleine journée, ça doit être... aux alentours de plus de moins 100 degrés, je crois, si ma mémoire était bonne. Et la nuit, c'est encore pire. Donc, et sur la Lune, c'est un petit peu moins, mais bon, les températures sont pareilles. Par contre, il y a une fluctuation plus importante entre le jour et la nuit. Mais bon, ça reste quand même, de toute façon, sans appareillage spécifique, c'est pas vivable.
Mais alors là, c'est un vieux fantasme de science-fiction, hein, mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourra marcher sur le Soleil avec des combinaisons, parce que c'est...
Non.
Non, jamais.
Impossible.
C'est beaucoup trop...
Ouais, là, c'est...
Non.
Déjà, sur Mars, on ira, sûrement, mais...
On peut pas déjà aller sur Mars?
Les robots, oui. Mais l'être humain, je pense pas que, malgré tout ce qu'on peut dire actuellement, personnellement, je pense pas, parce qu'il y a justement toute une logistique avant qu'il faudra mettre en œuvre. Et ça sera les robots qui seront chargés de le faire, parce que je pense pas que l'être humain pourra le faire, à cause justement de ce que je viens d'expliquer. Et je pense pas que l'être humain en tant que tel, comme on va sur la Lune, puisse aller sur Mars. Moi, je le verrai pas, en tout cas, je pense pas.
Mais, comment dire, le Soleil, il a toujours fait des rayons ultraviolets, X et autres.
Tout le temps.
Tout le temps, mais par exemple, est-ce que c'est avant, c'était plus nocif qu'aujourd'hui ?
Il y a toujours eu des périodes. On nous parle du réchauffement climatique. Bon, c'est vrai que ça existe, faut pas se leurrer. Il y a une accélération quand même, on le voit par les fonds des banquises, très importante, et ça c'est surveillé par satellite, donc on s'aperçoit quand même que ça va quand même assez vite et beaucoup plus vite que ce qui était prévu par les modèles numériques. Mais il y a toujours eu des périodes, de réchauffement et de refroidissement. Ce qu'on appelle les périodes glaciaires, il y en a toujours eu, ça a toujours existé. Donc là, est-ce qu'on n'est pas justement, est-ce qu'une partie, on va partager, 50-50 la pollution de l'homme, et puis 50% l'autre partie, réchauffement naturel.
Mais parce que si le Soleil a toujours fait des rayons ultraviolets, ouais. A toujours réchauffé la planète, comment on a pu arriver à des températures aussi basses, en fait, je comprends pas.
C'est une question d'éloignement. Hein. Plus on s'éloigne du Soleil, moins les rayons. Là, justement, sur Terre, on est dans la bonne tranche, si on peut dire. Si on peut appeler ça une tranche, on est pile bien. On sera un peu plus avant, un peu plus après. C'est foutu, on pourrait pas vivre.
Mais
il suffit pas de grand chose. Hein.
Ah oui, donc c'est quand ça tourne, en fait.
Voilà,
ça, c'est clic.
exactement.
Et après, donc, je sais plus l'estimation, mais le Soleil, en fait, il y a une estimation, je sais plus laquelle, qui dit pour que le Soleil aspirera les autres,
oui,
planètes.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est comment ça se passerait, hein?
La logique, là, le Soleil est déjà dans sa deuxième partie de vie, puisqu'il a 4 milliards et demi d'années. Il est prévu qu'il vive encore 4 milliards et demi d'années. Donc le Soleil va gonfler. Donc en gonflant, il va englober déjà Mercure, Vénus. Mais déjà, quand on sera arrivé sur Vénus, nous, on aura déjà trop chaud. Donc on sera déjà... Avant que le Soleil nous grignote, si on peut dire, on sera déjà foutus. Hein? Parce que, par un effet mécanique, en fonction justement de la position où on est actuellement, on ne sera plus dans la position idéale. Et le Soleil, lui, va exploser et redevenir une petite naine blanche, ce qu'on appelle. Hein? Et voilà, ça aura un point blanc qui va briller dans le ciel. Bon,
après, ça va se reformer, le Soleil, ou pas ? Si ça, à un moment, ça close.
Normalement, il revient en naine blanche, point. Ça s'arrête là.
Parce que comme
ça
vous avez dit...
une petite étoile.
D'accord. Et ça restera comme ça. Bon, on ne sait pas. C'est l'anticipation à ce niveau-là.
Je me méfie beaucoup de scientifiques, moi. J'ai rien contre. Ils ont fait les études pour ça. Mais bon, on ne peut pas... On peut pas, honnêtement dire, voilà, il se passe dans 4 milliards et demi d'années, il va se passer ça, ça et ça, c'est pas possible.
Après, c'est l'anticipation de...
Voilà.
On ne pourra jamais vivre jusque-là, nous.
Non, déjà. C'est par les mesures qui sont prises par les satellites qu'on peut s'apercevoir de certaines choses, hein. Déjà des températures et tout ça, et du grossissement du Soleil. Bon, évidemment, il va pas grossir comme ça du jour au lendemain, hein, c'est évident. Mais moi, je rapporte ça un petit peu au modèle numérique pour la météo. En météo, il y a des modèles numériques qui sont prévus, et dans les modèles numériques, si une dépression est en avance ou si elle est en retard, le modèle numérique, lui, il ne peut pas le prendre en compte. Ce n'est pas possible. Lui, il prend en compte des données bien précises. Mmh. Et donc, ce qui fait que des fois, on nous annonce du soleil, il pleut, et vice-versa, parce que la dépression, elle est avancée ou en retard.
Et ça fait depuis combien de temps qu'il gonfle le soleil, là, en fait
Là, il est dans sa deuxième partie de vie.
Ouais, mais...
Bon, ça doit être infime, hein.
Ouais,
j'imagine. Et bon, pourtant, je suis assez là-dessus, puisque avec le radiotélescope, je m'occupe du soleil tous les jours. Donc, je vois quand même pas mal d'informations. Je fais partie d'une boîte de données qui appartient à la NASA. Donc, je suis quand même au courant de certaines choses. Jusqu'à présent, j'ai pas vu de... Ça peut pas être quantifié, c'est pas possible.
Mais ça remonte à la préhistoire, par exemple, je sais pas. On peut pas savoir, on peut pas quantifier.
Bah, actuellement, si on veut dire la photographie de juste avant le Big Bang, avec le satellite Gaïa, on est à très peu de choses de voir justement le début de tout. La cartographie actuellement est pratiquement terminée. Il manque encore un petit bout. Là, on comprendra, si on arrive vraiment à ce petit bout, là, on comprendra certainement beaucoup plus de choses. Mais pour l'instant, regarde, tous les satellites qui observent ou même atterrissent sur des météores ou des trucs comme ça, ils s'aperçoivent de choses qu'ils n'avaient même pas idée. Donc, ça nous donne des informations sur la formation de comment est parti le début, si tu veux, de la vie, en fin de compte, hein, et tout le processus qui nous a amené jusqu'à maintenant. Parce qu'en fin de compte, nous, on est comparativement à l'existence, si on part du Big Bang, ça fait pas longtemps qu'on vit, en fin de compte. Hein. Donc voilà, la technologie... est assez récente comparativement à tout ce qu'on peut voir qui existait déjà avant.
Mais donc le soleil nous a été là bien avant nous, bien avant les premiers microbes.
Bien sûr.
Et donc il remonte à super sûr. Loin.
À 4 milliards et demi d'années. Ça, on a pu le déterminer, ça.
Et comment?
Par des calculs, scientifiques. Et puis ils ont certainement rentré beaucoup de données dans les gros ordinateurs. Et puis, justement, par des informations... de satellites qui explorent l'univers, et on peut ramasser une foule d'informations qui fait que voilà, on peut dire voilà, ça a été formé à telle date. C'est un petit peu comme quand on fait des fouilles archéologiques, on retrouve des choses qu'on peut dater précisément. Bon, voilà, c'est pareil avec les informations que les satellites recueillent. On peut dater certaines choses.
Et donc, j'ai une dernière question qui me vient en tête. Le Soleil, vous avez dit qu'il grossissait en permanence, ouais. Mais est-ce qu'il a déjà... est-ce qu'on sait s'il a déjà rétréci
Ah non, là il augmente, là. Maintenant, il va toujours augmenter. Il va toujours prendre du volume.
Mais il a jamais eu des phases comme ça où il rétrécissait et...
Non, c'est pour ça qu'on parle d'un diamètre moyen sur le Soleil. Parce que comme c'est une boule de gaz, il y a toujours une fluctuation. Mais ça n'empiète en rien sur le fait qu'il grossit. Hein? C'est comme si tu prenais une balle de mousse que tu serres dans ta main, elle va revenir toujours au même diamètre après. Mais bon, ça, c'est la fluctuation que tu fais avec ta main. Ben là, c'est pareil, c'est le gaz qui est à l'intérieur qui le fait... qu'il déforme un petit peu, mais il reprend à la fin, il reprend toujours. C'est pour ça qu'on parle de diamètre moyen pour tout ce qui est planète gazeuse, parce que c'est, comme c'est des gaz, du gaz, c'est volatile, ça bouge. Hein. Voilà.
Bien, merci.
De rien, merci beaucoup.
Thank you.
Tom, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous et posé ces questions très, très instructives. Pour ma part, moi, je suis Didier du Club Astronomie de Missyriac. Vous pouvez nous retrouver tous les vendredis soirs pour nos réunions et observations. Et un grand merci à Timbre FM et à bientôt pour d'autres émissions aussi passionnantes. Une émission sur l'astronomie, que même les Martiens écoutent.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
vers l'infini et au-delà.
Au-delà du cosmos, une émission que l'on peut écouter de Platune à Mipton, et bien sûr sur Timbre FM.
Au-delà du cosmos.
Okay,
au-delà du cosmos.